Je n'ai pas eu le temps de vous saluer, je vous dis bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je suis content, je suis heureux d'être là et merci encore pour ceux qui suivent les études sur Philémon. J'apprends beaucoup de choses, non seulement dans ce que je puise dans la parole, mais dans ce que le Seigneur me donne à travers vous. Parce que détrompez-vous, vous m'apprenez des choses chaque fois que je fais l'étude de Philémon. Est-ce que notre sœur Manuela veut bien prier, s'il te plaît, pour remettre ce temps entre les mains du Seigneur? Si vous avez un téléphone portable, mettez-le en vibreur. Pour les enfants qui pleurent, c'est normal. Il y a la garderie à côté. Sentez-vous libre de vous lever et d'y aller et d'y revenir dans la salle si l'enfant s'est calmé. Vous savez, la Bible est assez unique dans sa façon d'exalter les femmes. Loin de la dévaloriser ou de diminuer les femmes, la Bible semble parfois faire un effort pour lui rendre hommage, pour ennoblir leur rôle dans la société et la famille, pour reconnaître l'importance de leur influence et pour acclamer les vertus de ces femmes qui ont été des exemples frappants de piété. Depuis le premier chapitre de la Bible, nous apprenons que les femmes, comme les hommes, ont été créées à l'image de Dieu. Elles tiennent des rôles de premier plan, bon nombre d'écrits ou de récits bibliques importants. Elle est considérée, je dirais, comme une partenaire vénérée, une compagne chérie de son mari, et non comme une simple domestique ou un meuble de salon. Rappelez-vous, au monde du Sinaï, Dieu a ordonné aux enfants d'Israël, d'honorer leur père et leur mère. C'est un concept, à l'époque révolutionnaire, où les cultures païennes étaient pour la plupart dominées par des hommes qui dirigeaient leur foyer avec une main de fer et où les femmes étaient généralement considérées comme des créatures inférieures, des simples servantes pour les hommes. Mais si nous lisons certains textes bibliques, nous remarquerons aussi que dans la vie sociale et religieuse d'Israël, de même que dans l'Église du Nouveau Testament, les femmes ne sont pas marginalisées ni reléguées à une position de second ordre ou encore en arrière-plan. Au contraire, la Bible semble réserver aux femmes une place d'honneur et recommande aux hommes d'aimer leurs femmes d'une manière sacrificielle, même au prix de leur vie, si cela est nécessaire, comme Christ a aimé l'Église. En d'autres mots, de la première à la dernière page de la Bible, elle décrit la femme comme un être extraordinaire. Des femmes extraordinaires, nous pouvons en citer une multitude. Lydie, Dieu ouvre un cœur accueillant. Marie de Magdala, libérée des ténèbres. Anne, un portrait de grâce féminine. Ève, la mère de tous les vivants. Sarah, celle qui espère contre toute espérance, avancée en âge, incapable biologiquement de mettre un enfant au monde. Rahab, une vie honteuse rachetée. Anne, le témoin fidèle. La Samaritaine, à la recherche de l'eau vive. Marthe et Marie, le travail et l'adoration. Marie, celle qui est bénie entre toutes les femmes. Ce matin, vous l'aurez compris, je dédie cette réflexion aux femmes. J'aimerais, avec l'aide du Saint-Esprit, regarder avec vous le portrait d'une femme, et spécialement les caractéristiques élogieuses de son cœur, de son âme et de son esprit. Mais précisément de son attachement au Seigneur et surtout de sa détermination à servir le Dieu vivant. Une femme extraordinaire. Nous en avons dans notre Église. Elles sont souvent dans l'ombre. Je vous invite à prendre Ruth avec moi. Chapitre 1er, versets 8 et suivant. Merci pour l'eau. Je commence la lecture. Naomi dit à ses deux belles filles, « Allez, que chacune retourne à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent, et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir de vos maris? Retournez, mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Retenez bien ce verbe, Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Et si autre chose que la mort vienne me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Amen. Il y avait dans cette femme quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qui doit se trouver non seulement dans la vie de toutes les femmes de notre communauté, mais de tous ceux que le Seigneur a appelés, et y compris nous les hommes. On dit souvent ce que femme veut, Dieu veut. Qu'est-ce que cela veut dire? La femme serait-elle plus près de Dieu? Connaîtrait-elle plus la volonté de Dieu? Serait-elle à même de mieux servir Dieu? Personnellement, je ne le crois pas. Mais il y a un domaine où personne, et surtout nous pas les hommes, ne peut rivaliser avec la femme, c'est celui de la souffrance. Car malgré la peine, le dur labeur, les exigences de la vie qui pèsent sur elle, elle continue sa route. Il y a en elle une détermination, un courage, une force intérieure qui se décuple, spécialement lorsque le vent souffle. Vous savez, en relation d'aide, nous avons fait une étude. Et nous avons fait, un pourcentage, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais lorsqu'un couple divorce ou se sépare, vous trouvez plus de femmes qui décident d'élever leurs enfants et de continuer de faire le boulot du père et de la mère que d'hommes qui le fassent, le boulot de père et de mère. Souvent, ces hommes-là se remarient pour avoir une aide. Mais souvent, ces femmes seules restent avec leurs enfants pour leur donner une éducation pour continuer. Lorsque le vent souffle, la femme, elle est beaucoup plus solide et elle persévère. Il est vrai que la Bible parle de la femme comme d'un vase fragile, un être beaucoup plus faible, mais cela n'a rien à voir avec une infériorité par rapport à l'homme. Ce que Dieu dit, c'est que la femme doit être entourée de plus de soins, de plus d'attention, de plus de douceur, de plus d'amour, de gentillesse, de plus de tout cela que l'homme. Nous la disons inférieure à l'homme. D'après vous, qui est-ce qui s'est fait avoir dans le jardin d'Éden? Mais là n'est pas l'objectif de ma réflexion ce matin. Nous y reviendrons dans une prochaine réflexion. Frères et sœurs, l'Église d'Argenteuil a besoin, c'est vrai, de réveil, de visitation, de plénitude. Mais ce dont nous avons besoin, c'est plus de personnes de la trempe de cette femme Ruth. Des gens qui vont jusqu'au bout, qui ne se laissent pas abattre, qui, quand je parle de repentance, qui acceptent de changer, qui acceptent de se soumettre, d'obéir, de se repentir. Ce n'est pas avoir une petite larme à l'œil ou des sentiments émotionnels. Dieu n'a que faire du sentimentalisme et des émotions qui font frémir uniquement notre peau. Ce que Dieu veut, c'est un cœur brisé et contrit. C'est que le cœur change, c'est que les attitudes changent, que les paroles prononcées soient vraiment mises en pratique. Et l'Église d'Argenteuil ici que nous sommes dans ce lieu a besoin de Ruth, de caractère de ce type, et Dieu bénira. Dans ce récit biblique, nous voyons qu'une famille décide de quitter son pays, sa patrie, sa famille, son lieu de bénédiction à cause d'une famine, crise et difficulté. Bien souvent, nous rencontrons une petite difficulté avec un frère ou quelque chose dans notre église. Nous préconisons la fuite plutôt que de rester, de régler le problème. J'appelle cela des rétrogrades. Et pendant un moment, c'est vrai, nous allons partir, quitter l'église. Ça va marcher, c'est vrai. Un moment, ça marche, mais le vent tourne, comme dans notre récit. Le vent va tourner, la mort du père, la mort des deux fils. Et voici trois femmes qui se retrouvent seules, veuves, sans aucune espérance et de joie et de bonheur futur. Nous ne savons pas combien de temps cette famille est restée. Oui, si, 10 ans, le texte le dit. Mais en tout cas, ces deux fils ont eu le temps de se marier avec des femmes étrangères, des Moabites. Vous savez, même si certains ne partent pas physiquement, spirituellement, ils sont éloignés. Il y a un obstacle et ils font des alliances peu recommandables lorsqu'ils quittent l'église. Naomi entend parler de la visitation de Dieu dans son pays et décide de retourner vers les siens, là où Dieu est, là où il y a de l'abondance. Frères et sœurs, l'église est un lieu où Dieu répand sa bénédiction et il manque et revient à se livrer à une mort certaine. Naomi ne fait aucune pression sur ces deux belles filles. Elle leur offre de retourner vers leur pays, vers leur peuple, vers leur Dieu païen. Il n'y a aucune pression de la part de Naomi, leur belle-mère, aucun chantage. Vous êtes libres. Allez, retournez vers vos dieux et vers vos peuples. Pourquoi rester auprès de moi? Il n'y a plus d'espoir de mon côté. Il en est de même pour le Seigneur vis-à-vis de nous. Dieu ne fait aucune pression. Il ne nous oblige pas à le servir, ni à lui être fidèle. Il ne nous oblige pas à chanter des chants de consécration. Dieu ne fait aucune pression sur nous. Il nous laisse le libre choix, le libre arbitre. Mais les deux femmes dans notre texte, deux femmes moabites étrangères à l'Alliance vont avoir deux réactions bien différentes. Non, nous irons avec toi vers ton peuple. Ici, il me semble, c'est le sentiment de l'émotion, la politesse et la délicatesse qui parlent. Naomi bénit même leur départ. Que l'Éternel use de bonté envers vous, que l'Éternel vous fasse trouver du repos. Puis Naomi leur montre que rien ne pourra relever leur descendance auprès d'elle. Elle est avancée en âge, incapable de biologiquement d'avoir d'autres fils. À nouveau, au verset 14, elles élèvent la voix et pleurent, puis il y a action. Orpa embrassa sa belle-mère. Mais Ruth n'embrassa pas sa belle-mère. Elle fit quelque chose qui va démontrer sa force de caractère, ce que Dieu aime. La Bible nous dit qu'elle s'attacha à sa belle-mère. Mes frères et sœurs, vous savez, deux possibilités pour démontrer notre foi, notre zèle, notre croyance et notre identité en Christ s'offrent à nous. Soit nous faisons un baiser de revoir au Seigneur, soit nous nous attachons fortement à la personne de Christ. Tout le monde peut donner le baiser, tout le monde peut verser des larmes, tout le monde peut sentir ses entrailles bouger, mais tout le monde ne peut pas s'attacher comme cette femme qui plus est donne l'explication de son attachement. Combien sont nombreux les chrétiens qui font de temps en temps un petit bisou au Seigneur, mais sans plus, et retournent dans leurs vieilles habitudes, retournent à leurs affaires. Tiens, Seigneur, je te fais un petit bisou ce matin. On connaît les difficultés au travail, dans la maison, au niveau de la santé. On va te faire un petit bisou juste à la réunion de prière. J'espère que nous avons tous en mémoire le baiser qui a précédé l'arrestation de Jésus. En Luc chapitre 22, verset 48, Jésus lui dit comme réponse, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » Regardez le baiser d'adieu d'Orpa. Elle part sans remords. Mais comment, après avoir vu fonctionner cette famille dans le Seigneur, après que Dieu puisse aider cette famille, la famille d'Élimélec, comment peut-elle encore partir sans aucun remords? Sans même savoir si sa belle-mère, fatiguée, va supporter le voyage. Elle embrasse sa belle-mère et se détourne, se sépare, s'éloigne et retourne vers ses dieux païens. Ruth s'attacha à sa belle-mère, mais elle ne le fait pas d'une façon superficielle, non, elle s'attache fortement à elle. Il y a plusieurs mots en grec, en hébreu, qui expriment cet attachement. Je vous ai déjà dit, je ne sais pas prononcer ni le grec ni l'hébreu, mais j'ai trouvé ce que ça veut dire, c'est « s'unir ». Attacher ici veut dire s'unir, adhérer, coller rapidement, sans perdre de temps, sans laisser le temps passer, car il y a urgence. S'attacher en fortifiant, en stimulant, en encourageant. Ruth s'est attachée à sa belle-mère en l'encourageant. Comment nous attachons-nous au Seigneur ce matin? Comment sommes-nous attachés au Seigneur? Est-ce par un petit baiser, une petite offrande le dimanche matin, une petite prière avant le repas, un petit service de temps en temps, un petit effort, car il y a une action à mener. Frères et sœurs, réfléchissons un instant ce matin. Notre baiser pour le Christ est-il le moyen par lequel on veut se débarrasser de lui? Souvent, lors d'une conversation, et vous le saviez, on se débarrasse, on fait des gens par un baiser. Excuse-moi, il faut que je parte, et on fait la bise. Allez, ciao. C'est le moyen le plus rapide de se débarrasser, plutôt que d'écouter, d'attendre. Utilisons-nous le baiser de cette façon pour Jésus. Je vous rappelle que Jésus ne fait aucune pression sur nous. C'est notre parole qui nous lie à lui. Je te suivrai partout, jusqu'au bout. N'est-ce pas ce que nous avons dit lorsque nous sommes convertis? Je te donne ma vie, Seigneur. Je te laisse conduire ma vie. Prends toute la place, prends la première place dans ma vie. Et pourtant, quelquefois, nous faisons un petit baiser au Seigneur. Ciao, Jésus. Et nous y reviendrons encore lorsque nous passons par des difficultés. Et nous refaisons encore un petit baiser et nous repartons. Oui, il s'attacha rapidement à sa belle-mère. Mais comme c'est étrange dans l'air du temps, c'est tout à fait anormal. C'est le contraire aujourd'hui, les belles filles ne s'attachent pas à leur belle-mère. Ce n'est pas attaché, c'est plutôt attaqué, quelquefois. Eh bien, comme pour Orpah, la même possibilité de partir, Ruth l'a eu, Ruth l'avait. Naomi lui donne cette même possibilité de partir, cette même opportunité. Mais Ruth veut aller plus loin avec le Seigneur. Ruth ayant vu fonctionner le Dieu d'Israël à travers cette famille, eh bien, elle veut aller plus loin. Il y a dans son attachement une détermination, un feu d'amour qui brûle et que personne, pas même sa belle-mère, ne peut éteindre. Pourquoi? Eh bien, pendant tout le temps passé au contact de sa belle famille, elle avait rencontré un autre Dieu que le Dieu de Moab. Je prie le Seigneur que cet attachement et cette détermination qui symbolise Ruth se retrouvent aujourd'hui dans chacun de nous et dans le service au Seigneur, ainsi que dans nos cultes d'adoration. Ma prière, c'est que le Saint-Esprit vienne dans toutes les vies de ceux et celles qui ont donné un baiser au Fils de Dieu et l'ont livré pour le monde, pour la famille, pour leur loisir, pour leur propre justice, qui n'est autre que la démonstration de leur orgueil et de leur égoïsme. La Bible nous exhorte à ne pas nous attacher aux choses d'ici d'en bas, mais aux choses d'en haut. C'est un avertissement solennel, car il y a danger. Si nous nous attachons à ce qu'aime le monde, à ce qui nous influence dans ce monde, alors nous serons tellement attachés à ce monde que nous ne pourrions plus nous en défaire et nous périrons avec ce monde. Vous connaissez l'histoire de l'aigle? L'aigle qui voit un agneau flotter dans une rivière. Il plonge sur lui, il fonce avec ses serres, ses griffes et dans la laine. Mais au moment de s'envoler, le poids a doublé, la laine a gonflé avec l'eau. Il ne peut plus se dégager et il est prisonnier. La cascade est juste devant lui et il tombe avec l'agneau et périt dans les eaux tourbillonnantes. Ainsi va la vie de ceux qui abandonnent le Christ. Ils sont nombreux ceux qui s'attachent au monde et donnent de temps en temps un bisou au Seigneur. Ruth non seulement s'attache à sa belle-mère, mais elle déclare avec détermination, elle confesse son désir. C'est ce que Dieu veut pour notre Église avant de répandre sa bénédiction. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, eh bien, elle laisse tout dans les mains du Seigneur. Que la volonté de Dieu soit faite. Quelle consécration, quelle décision, quelle détermination, quel engagement. Ce n'est pas ce que l'on dit aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne dit pas où tu iras, j'irai, ton Dieu sera mon Dieu. Non, chacun son chemin, chacun sa vision, chacun sa direction. Eh oui, mais le texte dit où tu demeureras, je demeurerai. Il y a dans ces mots, il y a un attachement, une dépendance totale, une soumission, un abandon puissant. Ce n'est plus ma vie, mais la tienne. Ce n'est plus mon bonheur, mais le tien. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ton peuple sera mon peuple et le peuple de Dieu, la maison de Dieu. Et j'y habiterai, je la fréquenterai, je m'y installerai et je m'y investirai ici dans notre église d'Argenteuil. Et vous, comment est notre attachement? Et nous, comment est notre attachement au Seigneur? Comment sommes-nous attachés au Seigneur? Elle dit, cette femme, elle dit que Dieu me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient me séparer de toi. En d'autres termes, Ruth dit que Dieu me frappe, qu'il me punisse, qu'il me châtie si je permets à quoi que ce soit de me séparer de toi, excepté la mort. Si je permets à mes motivations, à mes loisirs, à mes désirs, à ce monde, me séparer de toi, et bien que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Dans ses propos, Ruth sait où elle veut aller. Et rien, aucune circonstance, personne ne pourra la séparer de sa décision ni de la changer. Aucune chose, rien du tout. Autre chose, découragement, déception, frustration, lassitude, impatience, injustice, contrariété, susceptibilité. Qui nous sépare aujourd'hui, mes frères, mes sœurs? Qui et quoi qui nous sépare de notre Dieu? Qui nous amène à prendre souvent une autre direction? Qui nous amène quoi? Qu'est-ce qui nous fait qu'on va faire un baiser à notre Seigneur et ciao, bye bye? Avez-vous remarqué que dans la décision de Ruth, il n'y a pas de condition? Je vais avec toi, Naomi, mais oh, pourquoi? Parce qu'elle s'est attachée corps, âme et esprit. Elle n'a rien laissé au hasard. Elle a vu le fonctionnement du Dieu d'Israël. Et tout ça, ça a basculé sa vie. Une Moabite, une femme étrangère, elle deviendra une aïeule transjordanienne de Jésus-Christ. Jésus, notre Seigneur, veut trouver dans notre vie, dans notre service, dans notre fonction, une telle détermination, un tel esprit de consécration. Et rien ne doit nous séparer de lui. Romains 8, versets 35 à 39 nous le précise. Qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Ni les dominations, ni rien du tout. Rien, frères et sœurs d'Argenteuil, ne doit nous séparer de cet amour. Rien ne doit venir entraver, briser notre relation et notre détermination pour le Seigneur. Il est temps de nous lever et de nous dire que voilà, mon attachement au Seigneur, ma détermination, c'est celle de Ruth. Plus loin, et oui, plus loin dans le texte, si vous prenez le soin de le lire, Dieu va récompenser cette femme. Et en lisant la suite de l'histoire, on se rend compte que son attachement n'était pas si facile que cela. Elle dut se baisser et ramasser la nourriture pour elle, mais aussi pour sa belle-mère. C'est là la vraie consécration. Non pas de s'attacher à Jésus pour être béni, mais de s'attacher au Christ pour bénir les autres et servir les autres. Ruth se mit au service de sa belle-mère. Elle travailla pour leur survie. Elle obéit aux directives de sa belle-mère et Dieu inclina le cœur du propriétaire en sa faveur. Dieu lui trouve un époux Boze qui acquit le droit de rachat. Ruth devient la grand-mère de David et fut dans la généalogie de Jésus-Christ. Ruth, cette femme extraordinaire, nous donne aujourd'hui par le Saint-Esprit une grande leçon. Et quelle leçon ? S'attacher, se donner, se livrer, être fidèle dans les petites choses et faire partie de la famille du Dieu vivant. Frères et sœurs d'Argenteuil, où en sommes-nous aujourd'hui dans notre attachement, dans notre cheminement, dans nos priorités et dans notre fidélité à notre Seigneur ? Est-ce que nous partons d'église en église pour butiner ? Baiser ou attachement ? Vie superficielle ou vie de profondeur ? Éloignement et oubli, ou engagement et renoncement. Dieu nous regarde ce matin, Dieu regarde son peuple, Dieu regarde son église, Dieu regarde ses serviteurs, Dieu regarde ses servantes que nous sommes, Dieu regarde ses musiciens, Dieu regarde ses prédicateurs, Dieu regarde son pasteur, Dieu regarde ses donateurs, ceux qui contribuent à l'avancement de son œuvre dans notre église. Dieu regarde les jeunes ce matin, et je dirais malheureusement, il sera obligé de faire un tri. Obligé de faire un tri. Pourquoi ? Parce qu'il va se servir uniquement de ceux qui ne lui donnent pas un baiser, mais qui se donnent entièrement à lui. Regardons notre propre vie ce matin, à notre consécration, à la lumière de Ruth. Et sachons que si ce matin nous lui donnons un baiser pour l'oublier, ou bien nous le laissons, je dirais, nous le saisissons à bras le corps, en nous attachant fortement à lui. Qui c'est qui vit en nous ? Qui c'est qui vit en nous ? C'est Christ ou c'est autre chose ? Que le Seigneur vous bénisse ce matin et qu'il nous fasse du bien.